Chapitre 10. Les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Cours 1. La mobilisation totale des sociétés. L'enlisement du conflit à la fin de l'année 1914 explique la mise en place d'une guerre totale. Les États sont en effet contraints de mobiliser toutes leurs ressources durant une longue période, à un degré jamais atteint précédemment et dans un but d'anéantissement de l'adversaire. A. L'entrée en guerre. La guerre acceptée. Dans la plupart des États belligérants, les divisions politiques s'effacent et la nation fait front pour assurer la victoire. En France, le président Poincaré utilise pour la première fois le terme « Union sacrée » et appelle à défendre la patrie en danger. En Allemagne, le Parti social-démocrate accepte aussi de se lancer dans une guerre défensive. Guillaume II déclare « Je ne connais plus de parti, je ne connais que des Allemands ». Au Royaume-Uni, malgré de fortes tensions entre catholiques irlandais et protestants britanniques, les premiers proposent de combattre aux côtés des seconds. La guerre imposée. La situation est très différente en Autriche-Hongrie et en Russie. La première est un empire multinational qui ne peut guère compter sur un patriotisme unitaire. La seconde est confrontée à un mécontentement populaire de plus en plus fort qui porte atteinte à l'image et à l'autorité du tsar Nicolas II. B. La mobilisation économique. La mise en place d'une économie de guerre. En 1914, la guerre n'est pas censée durer. Les états-majors ont mis au point des stratégies offensives visant une victoire rapide. En effet, l'ampleur des moyens mobilisés rend normalement impossible la poursuite des combats sur le long terme. Quand à la fin de l'année 1914, le conflit s'enlise, les états n'ont pas d'autre choix que de mobiliser l'arrière dans un effort de guerre sans précédent. L'économie de paix se transforme en économie de guerre. L'intervention de l'État. La production industrielle est rapidement inférieure aux besoins de l'armée. En France, toutes les entreprises susceptibles de fabriquer du matériel de guerre sont reconverties en usines de guerre. Schneider, Acier, Citroën, Obus, Breguet, Aéronautique, Renault et Peugeot, Véhicules militaires, Sopiquet, Rations des soldats. En Allemagne, le programme Hindenburg 1916 prévoit de doubler la production de grenades et de tripler celle des mitrailleuses et des obusiers. Le financement de l'effort de guerre. Les dépenses militaires explosent. L'impôt sur le revenu, qui existe déjà en Grande-Bretagne et en Allemagne, est instauré en France en 1914, juste avant le début du conflit. Comme il se révèle insuffisant, le gouvernement décide de taxer les bénéfices des entreprises liées à la guerre. Les États belligérants ont aussi recours à l'emprunt, à la fois auprès d'autres États et auprès de leur population. Emprunt national. C. La mobilisation idéologique. La propagande. Les journaux n'hésitent pas à diffuser de fausses informations pour faire croire que la victoire est assurée. C'est le bourrage de crâne. Les Français découvrent ainsi que les balles allemandes ne sont pas dangereuses et que les soldats vont à la bataille comme à une fête. Dans chaque camp, la guerre est présentée comme la défense de la civilisation contre la barbarie. Les combattants sont héroïsés et les adversaires diabolisés. En France, les Allemands sont désignés par des termes péjoratifs comme « boches ». Selon un médecin français, la nature maléfique des Allemands se traduirait par leur odeur particulièrement forte liée à une défécation et une sudation trop abondantes. La censure. La correspondance des soldats est soumise au contrôle postal. Certains passages sont dissimulés derrière des bandes noires ou découpées. Les lettres les plus alarmantes ne sont pas transmises. Dans le sens inverse, les lettres de femmes se plaignant de la difficulté de la vie à l'arrière sont interceptées pour ne pas démoraliser les combattants. La censure touche les journaux qui paraissent parfois avec une une presque totalement blanche.